Bonjour à tous. Je pense que la sono marche puisqu'on m'a fait mettre l'attirail qui devrait être tout à fait fonctionnel. Ouais. Donc, bonjour et bienvenue. Vous voyez que Karen Blixen vous invite à rentrer chez elle et c'est ce que nous avons fait à la fois au Danemark et au Kenya. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à nous suivre dans ces visites que nous avons faites régulièrement. Alors, dans un premier temps, nous allons vous présenter les terrains et nos sources. Ensuite, dans une première partie, nous verrons comment, depuis le Danemark, elle est partie jusqu'à sa ferme en Afrique, 1885-1914. Ensuite, nous irons du Kenya de Karen au Kenya d'aujourd'hui. C'est essentiellement François qui vous parlera du café et de la ville, puisque le café est une de ses spécialités, la culture bien évidemment. Et enfin, dans un troisième temps, nous verrons le retour au pays natal, au Danemark, donc 1931-1962. C'est là qu'elle est morte et sa tombe est dans la propriété familiale à 20 km de Copenhague. Alors, dans un premier temps, on ne présente plus évidemment Out of Africa, ce film qui a eu 7 Oscars en 1986, qui a fait la renommée à la fois du livre, bien évidemment, mais aussi de ses principaux acteurs qui ont endossé la personnalité extrêmement riche et diverse de, à la fois de Karen Blixen et de son compagnon. Alors, c'est par la suite une source absolument incroyable d'utilisation qui a été faite à la fois par le commerce. Ici, vous avez un simple paquet de café organique, c'est-à-dire bio, mais également, il y a tout un thème qui a été développé à partir de deux mots qui sont magiques lorsqu'on parle de Karen Blixen et du Kenya, c'est-à-dire la nostalgie, qui est très présente dans le film que vous avez certainement vu tous, le film de Sidney Pollack, et puis la romance, cet aspect tout à fait romancé, au-delà duquel nous allons évidemment aller. Alors, ensuite, vous avez certainement lu tous La ferme africaine, et je viens d'avoir une conversation un petit peu en aparté. Je vous recommande surtout de lire la version de 2005 qui a été republiée aux éditions Folio pour une raison très simple, c'est que Karen Blixen a fait une première publication de son livre en danois puisqu'elle était danoise et que évidemment elle s'est exprimée de façon extrêmement riche puisque on s'exprime toujours mieux dans sa langue maternelle que dans une langue importée et cette traduction a été faite dans un premier temps, non pas à partir de ce livre en danois, mais à partir de la version qui date de l'année suivante et qui est en anglais. Et évidemment, la version en anglais est beaucoup moins riche que la version en danois, d'autant que le livre ayant paru en 1938 a été traduit en France uniquement en 1942, et qu'il a été largement censuré, étant donné qu'elle disait des choses qui n'étaient pas forcément très aimables pour les Allemands. Donc, lorsque vous lisez une version antérieure, à 2005, vous avez cette version expurgée de tout ce qui est les allusions à la politique allemande et à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà donc la raison pour laquelle il vaut mieux lire la version de 2005. Alors, bien évidemment, il y a d'autres livres qui ont été faits, d'autres de très nombreux livres, qui reprennent d'ailleurs plus ou moins les thèmes, mais certains autres sont très différents, vous en connaissez, comme le Festin de Babette, ou les contes qu'elle a faits par la suite, qui sont très différents. Mais bien évidemment, pour notre sujet, ce qui nous a servi le plus, c'est ce qui concerne l'Afrique. Alors, il y a également ces lettres d'Afrique, qui ont paru chez Gallimard, qui sont extrêmement riches, c'est un gros volume. Je vous recommande de les lire, même si de temps en temps c'est un petit peu répétitif, mais vous avez tous ces états d'âme qui, bien évidemment, ne sont plus romancés et qui sont des impressions à l'état brut davantage. Plus récent et moins connu, je passe sur toute une série d'autres éléments qui sont bien connus du grand public. Vous avez ce gros livre que nous avons acheté justement au musée de Karen à Nairobi, qui est postérieur et qui a été fait par un photographe qui est allé non seulement rechercher toutes les photos qui avaient été faites au temps de Karen, mais qui également a retrouvé Kamante, vous savez, son serviteur. Il est allé le retrouver et il a interviewé, la tradition orale étant très forte en Afrique, et il a mis noir sur blanc toutes les histoires que lui a racontées Kamante sur la période de Karen, mais bien évidemment sur la période antérieure et postérieure, puisque les premières enquêtes faites par ce photographe datent de 1955. Et si vous regardez plus en détail, vous constatez que la postface a été faite par Jacqueline Onassis, qui avait été contactée justement par ce photographe et qui avait accepté avec beaucoup d'enthousiasme de lire tout ce qui a été écrit, de voir les photos et d'en faire son propre commentaire. Alors, Kamante qui a écrit « Si nous étions des oiseaux, nous volerions pour te voir », il s'agit bien évidemment de Karen Blixen, écrit et dis-nous que tu reviens ici, nous croyons tous que tu reviens, nous croyons que tu ne pourras jamais nous oublier, ça a été le cas, mais elle n'est jamais revenue après 1931 au Kenya, on y reviendra plus tard. Voilà une lettre qu'elle a écrite très peu de temps avant sa mort, elle écrit justement à Kamante, que vous voyez sur la droite, cet extrait du livre précédent dont je vous parlais, Kamante qui est assis devant la maison de Karen à Nairobi, à côté de la meule qui avait servi pour le café, pour l'usine à café, qui a brûlé, comme vous le savez. Et dans cette lettre, je ne vais pas vous la lire en entier, je vous ferai remarquer une seule chose sur laquelle nous reviendrons, c'est que, bien que divorcée, elle signe encore Baronne Blixen et elle tenait beaucoup à ce titre. Et bien évidemment, elle envoie encore de l'argent en 1962 à Kamante parce que c'est le serviteur, mais elle en envoyait à tous ses anciens amis du Kenya. Voilà donc nos sources qui sont évidemment aussi des sources de voyageurs et de chercheurs puisque nous avons beaucoup travaillé, fait des enquêtes au Kenya, même si ce n'est pas particulièrement le Kenya qui a retenu notre attention, mais on a quand même beaucoup travaillé dans les archives. Quant au Danemark, on y est allé évidemment pour compléter nos connaissances et aussi pour le plaisir, c'est un pays que nous aimons beaucoup. Karen, donc, est danoise et il y a ici le château de son père, pour reprendre un titre, paraphraser un titre célèbre, puisqu'elle appartenait à cette aristocratie danoise et vous voyez comment elle signait toujours baronne et elle a beaucoup fréquenté tous les châteaux qu'il y a au Danemark. Il y en a une quantité invraisemblable. Et évidemment, elle a raconté toutes les fêtes qui pouvaient y être données, auxquelles elle a largement participé pendant sa jeunesse et jusqu'à son départ et même ensuite au retour. Donc, Saison à Copenhague, je ne sais pas si vous l'avez lu, raconte cette vie danoise au milieu des châteaux. Alors, il y en a, on n'en a pris que quelques-uns pour vous montrer le style qui est un style néo-hollandais, qui a été, souvent ces châteaux ont brûlé, ils ont été reconstruits un certain nombre de fois, mais ils sont très agréables, évidemment très bien fleuris, comme toujours au Danemark, avec des douves, des animaux de toutes sortes, et vous avez là le célèbre château d'Hamlet, Hamlet, ce héros danois qui a servi évidemment de modèle à Shakespeare pour sa pièce de théâtre. Voilà comme ce que ça donne l'hiver. Ici, vous avez donc la glace qui a pris les douves et vous voyez que les animaux survivent très bien. C'est un château royal, mais dans lequel les canards s'en donnent quand même à cœur joie, même s'ils glissent, ils font du patin souvent sur la glace.
Alors voici donc Copenhague au centre de notre attention pour l'instant, puisque les photos que vous avez commencé à voir et que vous verrez concernant Karen Blixen ont été prises à Copenhague et dans les environs immédiats, au bord de ce détroit. Je ne sais pas s'il y a un pointeur ici.
Oui, je vais te le faire.
Il y a un pointeur. Non.
Non, je vais te le faire.
Tu me le fais ? Je n'ai pas vu. Ouais. Tu me montres les détroits, là ? Voilà, c'est ça. Entre à l'est, la Suède, et à l'ouest, le Danemark. La vie danoise de Karen Blixen se passe essentiellement à Copenhague et dans la banlieue nord, la périphérie nord de Copenhague. Voici la ville où se trouve le domaine où a vécu Karen Blixen entre
1885
et 1913 ou 14, au nord de Copenhague, à une vingtaine de kilomètres au nord de Copenhague, au bord de ces détroits qui séparent le Danemark à l'ouest de la Suède à l'est.
Alors voilà la ferme dans laquelle elle a passé son enfance et dans laquelle elle est revenue après son retour d'Afrique. C'est une ferme qui a été achetée par son père. Son père pensait faire une bonne affaire immobilière parce qu'à ce moment-là, à 20 km de Copenhague, c'était la campagne et il pensait qu'en achetant un domaine, il pourrait ensuite gagner de l'argent en revendant les terrains. Et de fait, François vous montrera que c'est construit tout autour désormais. Mais donc cette ferme a servi de cadre à cette enfance qui a été relativement heureuse jusqu'au suicide de son père lorsqu'elle avait 10 ans et dont elle parle dans le film. Alors Karen est comme la majeure partie des Danois, et c'est une religion d'État luthérienne, protestante, mais elle a toujours dit qu'elle trouvait que les temples protestants étaient extrêmement tristes et qu'elle préférait les églises catholiques. Parce que justement, il y avait beaucoup plus de choses à voir. Il se trouve que la cathédrale de Copenhague, elle, est de style baroque et qu'elle aimait beaucoup s'y rendre, justement, parce qu'elle n'y retrouvait pas l'austérité des temples protestants. Elle a vécu aussi dans ce milieu qui est un milieu commerçant. Les Danois sont connus pour avoir, dès la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne, commercé à travers le monde. Et l'ancienne bourse fait partie des lieux que l'on retrouvait le plus souvent. Bien évidemment, la résidence royale, puisqu'elle a reçu des membres de la famille royale et des membres de la famille royale anglaise dans sa maison de Nairobi. Et elle a même offert au roi une peau de lion. Et vous voyez que dans Ombre sur la prairie, elle écrit « Ce lion n'est autre que celui des armoiries royales du Danemark ». Je fis ce vœu, si j'abats ce lion, j'offrirai sa peau au roi du Danemark. Et plus loin, 10 pages plus loin, elle dit, j'appris du roi lui-même que la peau de lion occupait une place très honorable dans la salle du trône. Son royalisme ne l'empêchait pas d'ailleurs d'avoir des idées plus libérales par ailleurs, on y reviendra. Elle a connu la petite sirène, ce qui est l'emblème un petit peu de Copenhague, puisque la petite sirène, en hommage à Andersen, a été installée en 1913 à l'entrée du port, ce port qui a fait la richesse de Copenhague et dont vous voyez les maisons d'armateurs qui sont sur la droite ici, par un jour où il faisait bien mauvais. Janvier 1914, elle part pour le Kenya. Elle prend le bateau, comme c'était la tradition à ce moment-là. En général, on s'embarquait soit en Angleterre, soit à Marseille, ce qu'elle a fait d'ailleurs les deux plusieurs fois. Et on débarquait, après une longue traversée, à Mombasa, qui est le port de la côte kényane, que vous verrez tout à l'heure sur la carte que vous commentera François. Donc, elle part parce qu'elle a rencontré dans cette aristocratie qui recevait beaucoup, un couple de jumeaux. Elle était éprise de l'un, finalement elle se marie avec l'autre, et l'autre, qui était en fait peu fait pour les affaires, a décidé, un peu sur un coup de tête, de faire une ferme, parce que son oncle était revenu enthousiaste du Kenya, en disant qu'il y avait de bonnes affaires à faire. Et donc, il a dit, eh ben, après tout, on va partir. Et il part d'autant plus facilement que c'était avec l'argent de la famille de Karen. Donc, des fiançailles ont lieu au Danemark Et le mariage a lieu à l'arrivée. Lui est parti un peu avant. D'ailleurs, ça lui a permis de changer ses plans au passage, parce qu'il s'est rendu compte que peut-être il avait un peu rêvé, mais il a continué à rêver par la suite. Donc Mombasa, qui est le port du Kenya, encore à l'heure actuelle un grand port, et qui a eu un fort construit par les Portugais, mais vous savez, tous ces forts d'Afrique de l'Est comme de l'Afrique de l'Ouest ont été pris, repris, alors par des populations, par des pays différents, par des peuples différents. Ils se sont beaucoup battus. Là, c'est une photo, je suis honnête, c'est une photo que nous avons prise en couleur, que j'ai mise en noir et blanc pour que ça fasse mieux dans le décor. Mais en fait, c'est ce qu'elle a connu. Ça a été un peu dégagé. Vous voyez qu'on a fait quelques fouilles. Mais quand elle a débarqué à Mombasa, bien évidemment, elle qui était férue d'art, je vous rappelle qu'elle avait fait des études d'art à Paris, elle est venue, bien évidemment, visiter ce fort et elle en fait d'ailleurs des commentaires dans ses lettres. Ce fort, donc, qui lui permet, après la visite, de prendre le train pour aller à Nairobi. Donc, tu peux redonner Mombasa.
Mombasa, voilà. Nairobi, qui est ici.
Voilà.
Et là, la voie ferrée, à cette époque-là, allait jusqu'au lac Victoria. Et donc, le port que vous avez vu, il est là, et elle va faire ce long voyage en train jusqu'à Nairobi pour retrouver son homme, son mari.
Pas encore, il était son fiancé.
Son fiancé, oui. Voilà, donc, une photo de l'époque qui montre le type de train qui roulait entre la côte de l'Afrique orientale et les colonies de l'intérieur, les colonies britanniques, qui étaient, non, en 1913, c'était encore, le Tanganyika était encore allemand. Voici donc une affiche qui montre bien le caractère un peu épique, l'épopée de ces trains en Afrique avec les lions postés un peu partout, des vrais lions hein, quand même, ce n'était pas des faux lions, et avec cette idée aussi importante, c'est que ces hautes terres, telles que c'est écrit sur l'affiche à gauche, d'Afrique de l'Est britannique, étaient conçues comme un séjour hivernal pour les aristocrates. Toute une aristocratie britannique fuyant l'Angleterre et allant vers le soleil, mais vers un soleil tempéré par l'altitude, car Nairobi, c'est 1600 mètres d'altitude, ça n'a rien à voir avec le climat de Mombasa sur la côte. Donc il y a tout un caractère à la fois nostalgique et romantique qui a été au cœur de cette période des débuts de la colonisation britannique en Afrique de l'Est. Et c'est à ce moment-là, c'est en 1914 qu'elle est arrivée, après la fin de la colonisation allemande en Afrique de l'Est. Pardon. Voilà, donc toujours une vue de ces trains. Et ici, une vue de l'ancienne gare de Nairobi en 1900. Cette gare existe toujours. Elle a été quand même pas mal transformée et surtout, elle a été doublée par une autre gare plus moderne que vous verrez plus tard, avec tous les véhicules qui servaient de transport en commun à cette époque-là, entre cette époque où Nairobi est encore le terminus du train et ensuite la brousse. Cette époque, cette histoire autour de la ligne de chemin de fer, cette histoire coloniale autour de la ligne de chemin de fer, elle est encore soigneusement rappelée aujourd'hui, par exemple dans la salle du petit-déjeuner de ce grand hôtel-restaurant de Nairobi, où il y a encore la locomotive, on voit sur la photo, IAR, East Africa Railway, et le panache de fumée, ainsi que la silhouette des acacias des savanes d'Afrique de l'Est, très, très caractéristique de ces paysages vers 1500 mètres d'altitude. Voici, ça, c'est une photo que j'ai prise moi-même il y a une quinzaine d'années. Donc les choses ont un petit peu changé. Cette vieille ligne existe toujours, mais elle a été doublée par une nouvelle ligne construite il y a quelques années par les Chinois avec une nouvelle gare que vous voyez à droite, Nairobi Terminus, qui vient doubler la vieille gare historique à gauche de Nairobi Railway Station. Et à quelques kilomètres au pied de Nairobi à 1600 mètres, ici les Ngong Hills, on est sur les hauteurs qui dominent la Rift Valley que vous voyez dans le fond, la cassure du Rift, hauteurs qui atteignent 2460 mètres d'altitude et Beaucoup de textes dans les livres de Karen Blixen évoquent justement les promenades sur les collines de Ngong dominant sa ferme pour chasser, pour se promener, pour surtout chasser. Donc c'est un lieu qui est devenu un peu mythique.
Voilà donc des photos de 1917 dans lesquelles vous retrouvez Karen avec ses principaux serviteurs et la maison célèbre que vous avez vue dans le film de Sidney Pollack qui est restée telle qu'elle dans son état, qui a simplement été un peu rénovée. La voilà, donc vous avez vu, lu comment elle organisait des fêtes ici dans la partie qui est dégagée, qui est devant. La maison elle-même étant relativement grande, avec derrière quelques dépendances qui servaient à la cuisine pour faire le repas des invités, parce qu'elle était une fine cuisinière et elle aimait beaucoup recevoir, comme cela se faisait dans l'aristocratie danoise et anglaise. La végétation est magnifique, Karen aimait beaucoup les fleurs, il y a de magnifiques bougainvilliers un peu partout, et vous avez la vue célèbre sur la salle à manger, qui a été remise au goût de l'époque pour les besoins du film, et tout ce qui a servi au film de Sidney Pollack est resté là, parce que les originaux sont maintenant dans le musée de Copenhague. Nous y reviendrons tout à l'heure.
Et cette maison est devenue un musée.
Oui, mais je vais en reparler tout à l'heure. Donc vous avez là la plaine qui est devant, où il y avait toutes ces grandes fêtes, où il y avait toutes les populations locales qui venaient. En 1920, elle est séparée de son mari, dont vous avez certainement su que à la fois l'agriculture, mais également le mariage n'était pas sa tasse de thé, si je puis me permettre cette formule. Et donc c'est son frère, son tout jeune frère, qui est venu pour essayer de sauver la ferme à un moment où on savait déjà qu'il était un peu délicat de cultiver du café à cette altitude-là. Elle s'entendait très très bien avec son frère et c'est lui d'ailleurs qui a par la suite fait que ces maisons sont devenues des musées et que nous avons pu y aller, que vous pouvez y pénétrer maintenant encore à l'heure actuelle. On la voit ici en 1921, autant elle pouvait être hyper élégante, à la mode, elle faisait venir des robes et des tenues de Londres pour être vraiment branchée, si je puis m'exprimer aussi familièrement, autant elle était capable de s'habiller en fermière et de faire tous les travaux les plus durs qu'a connu une fermière à cette attitude-là. Il n'en reste pas moins qu'elle restait très intellectuelle. Elle aurait eu évidemment l'occasion de faire des études, elle les aurait faites volontiers, mais une jeune fille de la bourgeoisie, de l'aristocratie danoise à cette époque-là, étudiait surtout la peinture, ce qu'elle a fait, je vous l'ai dit, à Paris. Alors, elle était donc à quelques kilomètres du centre de Nairobi et elle éprouvait beaucoup de plaisir à aller dans les lieux de réunion de tous ces expatriés, comme on dirait aujourd'hui. Et elle écrit à son frère, par exemple, en 1926, il est déjà reparti parce qu'il s'est rendu compte que c'était invivable et qu'il n'y avait pas d'issue pour la ferme. J'attends avec une impatience insensée les quelques minutes pendant lesquelles, chaque lundi, je rencontre ton ami mort devant un verre de vermouth à l'hôtel Stanley que vous voyez sur la gauche et au cours desquels nous avons l'habitude de nous prêter mutuellement des livres. Elle était une très grande lectrice et son compagnon lui a d'ailleurs appris le latin pour ceux qui sont de lettres classiques. Voilà. Alors, excusez-moi, mais j'ai sauté la vue générale sur cet hôtel Stanley, là en 1923, c'est-à-dire vraiment au moment où Karen le fréquentait. C'était un grand lieu de socialisation. L'autre lieu de socialisation qu'elle a beaucoup aimé, bien que protestante, ça a été pas loin de chez elle, à peu près à mi-chemin entre chez elle et le centre de la ville de Nairobi, la mission catholique, une mission spiritaine, qui a été bâtie justement peu de temps avant qu'elle n'arrive. Là, vous avez le terrain qui est encore en construction, enfin, oui, le jardin n'est pas du tout fait, autour de cette mission catholique qui a été inaugurée en 1914, octobre 1914, et je vous rappelle qu'elle est arrivée en janvier 1914. Donc, elle a toujours beaucoup fréquenté ces spiritains. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'ils avaient de la conversation. D'autre part, ils avaient une formation classique, beaucoup plus que les aristocrates anglais ou américains qu'elle pouvait rencontrer. Mais également parce qu'ils avaient du bon vin. Et elle aimait beaucoup le vin que lui servaient les spiritains quand elle venait leur rendre visite. Là, nous avons pris la photo quand nous y sommes allés beaucoup plus récemment. Mais maintenant, c'est en plein centre de Nairobi qui a beaucoup grandi. Mais à l'époque, c'était encore la campagne. Voilà la maison. C'est le plan classique que vous retrouvez dans toutes les missions européennes en Afrique de l'Est, avec évidemment la circulation de l'air qui est privilégiée avec ces balcons qui sont bien orientés. L'autre aspect, on a eu déjà l'occasion de le voir, c'est l'aspect chasseur, ou chasseresse comme vous préférez, de Karen, qui avait un très bon coup de fusil et qui se passionnait pour la chasse. Elle se passionnait aussi pour les animaux. Elle a eu beaucoup d'animaux, beaucoup de chiens en particulier, mais toutes sortes d'animaux qu'elle recueillait dans sa ferme et qui lui fournissaient une compagnie très appréciée. À tel point qu'on l'a appelée Madame la Lionne von Blixen. Alors, vous avez le terme en anglais. Et il y a d'ailleurs, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, une BD qui a été faite sur la vie de Karen Blixen et qui est intitulée La Lionne. Justement, c'est cet aspect-là qui a donné le titre. Et alors, pourquoi a-t-elle aimé la chasse? Alors, je ne suis pas du tout un défenseur de la chasse, ni d'ailleurs... Je ne la critique pas. Je constate simplement que pour Karen, le lion est la parfaite image que les générations humaines se sont faites de l'indépendance et de l'invincibilité à l'état pur. Je crois que je me souviens de chacun des lions que j'ai rencontrés. Et elle avait cette volonté de faire en sorte que les hommes et les animaux vivent en bonne intelligence. Elle avait une proximité avec les animaux qui lui faisaient avoir une vision très particulière et presque onirique de la chasse. Alors, les Maasai souvent venaient lui voler des animaux, elle ne leur en a pas voulu, elle ne parlait pas leur langue, mais elle avait appris quelques mots de Kikuyu et de Swahili, et elle pouvait échanger avec eux en Swahili, et elle était à l'image de tous ces grands propriétaires blancs qui, petit à petit, ont eu des terres qui leur ont été données par le gouvernement anglais. Le plus célèbre d'entre eux, peut-être, c'est Lord de la Mer, qu'elle a côtoyé, dont d'ailleurs une des descendantes est devenue, enfin, c'est même sa deuxième épouse, est devenue maire de Nairobi. Et c'est ce qu'on appelle là-bas les White Kenyans, ont eu un rôle politique jusqu'à ces dernières années qui a pu être important, puisque vous avez peut-être su que Leke, le descendant du découvreur préhistorien, a été ministre d'un gouvernement kényan. Donc, ces Blancs qui ont gardé des propriétés parfois, comme à l'image de la famille de la mère, et nous avions des amis qui étaient un peu de ce type-là, mais là, c'est des photos récentes. Ils vivaient un petit peu, on a redécouvert la vie que pouvait mener Karen Blixen, sauf que là, ils sont beaucoup plus isolés. Ils sont en Tanzanie, mais ils ont la maison, vous voyez que vous retrouvez un peu ces maisons coloniales, avec un culte pour les fleurs. Alors, vous les voyez, lui est grec, il a fui la Grèce au moment où il y a eu les traités de Sèvres qui ont fait que certaines îles sont redevenues turques. Donc, lui, ses parents sont partis en Afrique pour éviter de devenir turc. Elle est anglo-suisse et lui vient de mourir, malheureusement. Mais menant cette vie d'expatrié, mais très ancré dans la réalité, avec une plantation de café eux aussi, et d'ailleurs abandonnant petit à petit leur caféier qui ne rapportait plus assez et qui avait des problèmes de maladie. Voilà. Autre point commun, On est débarqué la dernière fois tout à fait à l'improviste chez ces gens-là, qui n'ont pas de téléphone. Avec la dernière technologie, ils pouvaient se servir de portable en condition de monter sur leur toit. Donc vous imaginez qu'ils n'étaient pas prévenus qu'on venait. Eh bien, notre ami, tous les jours, faisait des bouquets comme Karen, des bouquets magnifiques. Donc ce n'est pas pour nous, c'est habituel, des bouquets avec les fleurs que vous admirez aussi bien que moi, et puis les meubles qui sont des meubles d'Afrique de l'Est. Pour terminer sur cet aspect de la vie de Karen en Afrique, j'ai repris cette lettre de Karen que j'ai retrouvée dans un article du Monde et qui me semble bien résumée. J'ai été l'un des favoris. Elle mélange le français et l'anglais. Ça, c'est une traduction et la traductrice a gardé ce qui était les mots les plus forts en anglais. Elle parlait français avec les pères spiritains, qui étaient des pères français. Et elle connaissait bien le français. Mais là, donc, j'ai été l'une des favorite regions de l'Afrique. Un vaste univers de poésie s'est ouvert à moi et m'a laissé pénétrer en lui ici. Et je lui ai donné mon cœur, j'ai plongé mon regard dans celui des lions et j'ai dormi sous la croix du sud. J'ai vu les grandes plaines être la proie des flammes et alors qu'y poussait une herbe verte et tendre après la pluie, j'ai été l'amie de Somali, de Kikuyu, de Maasai, ce sont les populations locales. Et j'ai survolé les Ngong Hills, vous savez, avec son compagnon qui était aviateur. Citation, j'ai cueilli la plus belle rose de la vie, elle a lu tous les classiques bien évidemment. Je crois que ma maison a été une sorte de refuge pour les passants et pour les malades et qu'elle a été pour tous les Noirs le centre d'un friendly spirit. Voilà donc, nous allons passer à des réalités plus contemporaines avec le géographe.
Après cette plongée dans cet univers de l'époque coloniale qui est très caractéristique du Kenya et dans une moindre mesure de la Tanzanie, l'influence est encore très forte aujourd'hui. Il y a toujours une société de Kenyans blancs, propriétaires terriens, qui sont en général des fermes, qui ont aussi des entreprises, qui se retrouvent au Mutaiga Club de Nairobi, qui est le grand lieu de rendez-vous de ces Kenyans blancs, de ces grands propriétaires terriens, qui cultivent un petit peu cette nostalgie coloniale, tout en étant assez forte, assez bien intégrée dans la vie du Kenya contemporain. Alors nous avons eu la chance d'aller plusieurs fois au Kenya pour travailler, pour y faire des recherches en géographie, en histoire aussi, et nous avons donc eu l'occasion de parcourir ces lieux de Karen, Karen qui est devenu le nom d'un quartier de la périphérie de Nairobi.
Je te le montre.
Voilà.
Ah ben, attends, je vais te le montrer quand même.
Oui, c'est parce que...
Ça va... Je vais te le montrer.
Non, je vais le montrer. Oui, je vais l'avoir. Je vais trouver.
Voilà. Très Alors, bien, bravo.
Nairobi est ici. Mombasa, Nairobi, le Karen Coffee Garden, qui est la zone, et ici, on voit aussi aux alentours immédiats de Nairobi. Alors, vous remarquerez que cette partie du Kenya où nous allons nous promener sur les traces de Karen est en couleur bistre, c'est-à-dire c'est une terre d'altitude. On est dans les Highlands, comme on dit en anglais. Nairobi est à 1600 mètres d'altitude. La ferme de Karen... Voilà. La ferme de Karen, qui est là, dans un hiver très verdoyant. C'est un peu le printemps éternel, des températures souvent de 25 degrés l'après-midi, 25, 28, et souvent fraîches la nuit. Et dans beaucoup de ces maisons, et dans celle de Karen entre autres, il y avait des cheminées pour faire du feu le soir, pour se rafraîchir en particulier, pour se rafraîchir, oui, et pour se réchauffer aussi, les deux, en particulier pendant la saison des pluies. Alors voyez que la maison de Karen est aujourd'hui aux limites de l'urbanisation. On le voit bien à droite, ces quartiers de lotissement récent de Nairobi, qui est une ville qui, comme toutes ces grandes villes d'Afrique, a beaucoup grandi au cours de ces dernières années. Voici une carte qui situe quelques points importants. La ville de Nairobi, l'aéroport actuel de la ville de Nairobi, le quartier de Ngong, de Karen, pardon, se trouve au pied des monts de Ngong, des Ngong Hills, c'est ça. À l'ouest de cet escarpement, c'est la Rift Valley. Et là, ce sont tous les hauts plateaux kényans. Le centre de Nairobi est ici. Et on est aujourd'hui dans une grande agglomération qui est très proche du plus ancien parc national du Kenya, qui est un parc animalier très proche de la ville, comme vous le verrez sur d'autres photos, et qui est un exemple assez rare de parc périurbain. Voici donc une carte qui schématise un petit peu les lieux essentiels. Je vous les remonte. Le parc de Nairobi, la ville de Nairobi, le centre étant ici. Les quartiers périphériques où se trouve Karen se trouvent dans cette zone. La réserve naturelle du Ngong Hills et toute la zone du café dont on reparlera se trouve à peu près entre 1500 et 1800 mètres d'altitude. Ici, on est à 2600 mètres. À Nairobi centre, on est à 1600 mètres. À l'aéroport, on est à 1400-1500. Voilà quelque chose de plus détaillé. Et je crois que le quartier de Karen est signalé là. Non, pas encore. Pas sur cette carte-là, non. C'est la suivante, là. Voici donc, au fond, à gauche, les Ngong Hills, avec un animal que vous identifiez facilement au premier plan. Et on voit très bien ce cadre géographique très particulier que l'on retrouve à droite, photo prise en 1978, c'est la première fois qu'on est allé à Nairobi, où vous voyez les montagnes dans le fond, que vous voyez ici, ce n'est pas, c'est d'autres montagnes dont Karen ne parle pas, donc je n'en parlerai pas, et tous ces plateaux de savane avec ces acacias de formes diverses et de variétés diverses qui sont très caractéristiques de ce paysage. Alors, Karen Blexen à Nairobi, sa ferme, ça a été essentiellement une ferme de culture du café. Culture du café, qui est une culture devenue importante au Kenya, qui l'est encore aujourd'hui, mais dans une moindre mesure, café arabica d'altitude, avec un problème pour la ferme de Karen, qui n'a pas très bien fonctionné, parce que sa plantation était un petit peu trop haut, ça manquait un petit peu de chaleur, elle était à peu près à 1800 mètres d'altitude, ce qui est un petit peu la limite supérieure pour la culture du café arabica au Kenya. Alors on voit toujours ces silhouettes des acacias très caractéristiques, et vous voyez dans le fond, ici, hein, toutes les rangs de café, il y a aussi les plants de café au premier plan. Voici donc une affiche que l'on trouve souvent au Kenya, la carte du café au Kenya, où l'on retrouve les principaux lieux avec Nairobi, que vous voyez parmi au centre des régions du café. Voici des plantations de caféiers prises aujourd'hui, il y a une dizaine d'années maintenant, sur ces sols dérivés de lave volcanique, ces sols rouges souvent, ou gris-rouges, qui sont assez fertiles, avec un climat relativement humide, en tout cas très propice à des cafés de qualité. Grandes plantations et petites plantations cohabitent avec des grands blocs ici, vous voyez 9,9 hectares, avec des statistiques très précises sur ces plantations très importantes. Le café, ce sont des arbustes, ce sont des fleurs qui sentent très bon, et ce sont les fruits que l'on appelle les cerises. Les fleurs de café sont vraiment des parfums tout à fait délicieux. Voilà des cerisiers en cours de production, prêts à être récoltés, avec des cerises qui doivent être cueillies mûres pour faire du bon café, c'est-à-dire jaune, orange ou rouge et pas verte. Voilà donc ici ce travail du café, qui est un travail manuel. Cette caféiculture de qualité nécessite beaucoup d'heures de travail, beaucoup de main-d'œuvre. Et dans sa vie, Karen Blixen parle beaucoup des travaux de ses ouvriers sur la plantation. Il faut cueillir au bon moment, il faut choisir les bonnes cerises. Il y a tout un travail de précision qui est à faire. Après la récolte, le café sèche. Ce sont des photos que j'ai prises il y a une dizaine d'années dans la région de Nairobi.
Sèche. Il est déparché, là.
Oui, déparché d'abord, et là, ça sèche. Au soleil. On peut faire aussi du séchage quand il pleut dans des hangars avec des machines, mais le plus souvent c'est fait au soleil, avec, vous voyez, toute une série d'indications destinées au personnel pour que tout cela fonctionne bien. Citations qui sont bilingues, vous le remarquerez, en anglais en noir et en swahili, qui est la langue africaine véhiculaire de l'Afrique de l'Est, en rouge. Cette zone d'altitude des environs de Nairobi est certes essentiellement une région caféière, mais elle est aussi une région de culture vivrière et en particulier de culture du maïs, comme vous le voyez sur ce marché pluvieux des environs de Nairobi, des environs de Nyeri. Alors Nairobi, c'est aujourd'hui une région métropolitaine avec une énorme ville millionnaire. C'est la plus importante ville de toute l'Afrique de l'Est et c'est une des très grandes villes d'Afrique noire avec Lagos, Kinshasa et quelques autres. Ça, c'est une vue de ce qu'on appelle le Central Business District de Nairobi, le centre des affaires, avec au premier plan une mosquée. C'est une ville multiculturelle, multireligieuse et multiethnique. Donc un centre, une économie très active, en difficulté aujourd'hui comme beaucoup de pays d'Afrique, mais un pays dont la modernité urbaine a été précoce, bien en avance sur beaucoup d'autres pays d'Afrique. Voici donc des vues prises, je crois que me rappeler Annie que c'est depuis l'hôtel Stanley d'ailleurs qu'on a pris ces photos, l'hôtel Stanley dont vous avez vu des photos anciennes tout à l'heure. Donc c'est un univers très urbain, urbain un peu à l'américaine souvent, plus qu'à l'européenne, et dans toute la partie centrale de la ville. C'est une ville extrêmement active, avec beaucoup de commerce, beaucoup d'activités économiques de toutes sortes. Beaucoup de transports aussi. Alors City Hopa, ça c'est une espèce de... c'est de l'anglais transformé en swahili. C'est une parodie un petit peu de la sauterelle, en anglais on dit grasshopper, et là c'est la city hopper, c'est-à-dire la sauterelle de cité, les parcours, les bus urbains qui sont censés être rapides, tout au moins quand il n'y a pas d'embouteillage. Nairobi est une ville très agréable pour les embouteillages, il y en a beaucoup. Donc, dans les quartiers périphériques, plus périphériques, les paysages changent un peu. C'est pas très loin tout ça. Le centre que vous avez vu avant, il est assez ramassé, assez petit, ça fait à peu près... 1 km² sur l'ensemble, pas guère plus. Alors là, j'ai pris ça d'un autre hôtel moins cher que où j'avais logé, et on voit très bien cette espèce de désordre urbain où tout cohabite sans planification véritable, avec des immeubles en construction qui ne sont plus achevés quand il n'y a plus d'argent pour les finir, des voitures de toutes sortes, dans tous les états possibles et imaginables, et beaucoup d'activités là aussi. Voilà donc l'un des plus importants quartiers périphériques populaires de Nairobi, de l'habitat collectif, une vie de commerce urbain extrêmement active, une certaine insécurité aussi le soir, il ne faut pas trop traîner dans ce genre de quartier, il faut faire très attention. Et puis, partout, une ville d'embouteillage. Si vous aimez les embouteillages, allez à Nairobi. Il est fréquent d'être bloqué plusieurs heures au même endroit sans savoir pourquoi. Malgré les gros travaux routiers, il n'y a pas assez de transports en commun, la ville a une croissance désordonnée. Cette grande route qui mène vers le nord de Nairobi a été construite par les Chinois il y a quelques années, mais elle est déjà saturée, d'autant plus que la conduite est assez fantaisiste et qu'il n'est pas impossible de prendre la chaussée de gauche dans l'autre sens. Si on est pressé, ça peut se faire. Voilà. Alors on attend beaucoup. On attend et ça suscite quelquefois un peu de commerce ambulant de jeunes qui vendent des cigarettes, qui vendent différents produits. Par rapport à ce problème récurrent des embouteillages, qui n'est pas propre à Nairobi, mais qui est particulièrement important à Nairobi, ça c'est une photo tout à fait récente de quelque chose que je n'ai pas encore vu, qui est une nouvelle autoroute à péage, construite au-dessus de l'ancienne route menant vers l'aéroport. Il n'y a personne, d'une part parce qu'elle vient d'être inaugurée, et de toute façon, il n'y aura pas grand-chose qu'en monde, sans doute, parce qu'elle est à péage, et qu'elle est interdite à tout ce qu'on appelle les batatous, c'est-à-dire les minibus de transport collectif. Donc, je ne sais pas si elle sera fréquentée. Elle vient d'être inaugurée, donc c'est une photo que j'ai réussi difficilement à trouver sur Internet. Mais ça montre, c'est un symbole aussi de l'emprise de la Chine dans les infrastructures dans beaucoup de ces pays. C'est construit très vite, c'est pas toujours construit très bien. Il y a souvent des malfaçons, il y a parfois des ponts qui s'effondrent, mais c'est comme ça. Alors, Nairobi est aussi connue dans ce contexte de très grande croissance démographique par des quartiers périphériques qu'on appelle en anglais des slums, des bidonvilles en français, qui sont parmi les plus importants des villes d'Afrique. Celui-ci, Kibera, qui est un quartier dans lequel il est difficile de circuler en voiture comme à pied, avec cette maison de prière qui doit rassembler différentes églises ou confessions religieuses, est un énorme quartier qui a entre 1 et 2 millions d'habitants, on ne sait pas trop, à la périphérie du centre-ville. Alors, ça, c'est un peu un montage photographique, mais qui est intéressant parce qu'il montre les contrastes. Vous voyez le centre, le CBD, le Central Business District, là-bas. Vous voyez les quartiers périphériques, style Karen, Ngong et autres, avec beaucoup de parcs, beaucoup de verdure, beaucoup de belles villas. Ce sont des beaux quartiers. Vous avez les quartiers type bidonville, avec de l'habitat en tôle, en général, en terre, en tôle, en parpaing, dans un très grand désordre. Et puis vous avez parfois quelques éléments de ceinture maraîchère périphérique. Voilà encore une autre vue de Kibera. Et là aussi, alors ça c'est pris à proximité de la ligne de chemin de fer, celle qui a été prolongée au-delà de Nairobi vers l'Ouganda. Vous voyez que c'est un habitat extrêmement pauvre qui couvre des kilomètres carrés tout autour de Nairobi. Nairobi est une ville d'insécurité parce que c'est une ville aussi de très grande inégalité entre riches et pauvres, des très riches et des très pauvres. C'est classique dans les grandes villes du tiers-monde, c'est peut-être particulièrement aigu dans cette ville. Des quartiers de classe moyenne quand même se développent. Certains bidonvilles sont rasés, des immeubles pour les classes moyennes sont construits, mais ils sont très vite saturés, occupés, avec les risques de dégradation que ça peut intervenir. Et vous voyez aussi au premier plan, au deuxième plan, derrière les deux hommes, l'homme et la femme qui sont là, des quartiers, des ébauches de ceintures maraîchères. On s'efforce de cultiver un peu dans les bas-fonds, là où il y a le plus d'humidité. Et puis Nairobi, la nuit, c'est une ville qui fascine, parce que c'est quand même un type de ville, il n'y en a pas tant que ça encore en Afrique, il y en a quelques-unes, mais c'est sans doute pour l'Afrique de l'Est de loin la plus importante. C'est la ville lumière, c'est la ville séductrice, c'est la ville qui attire. La ville attire, elle attire des populations en déshérence, des populations qui cherchent du travail, qui sont prisonnières du chômage à la campagne, qui sont prisonnières parfois de manque de terre à la campagne, étant donné la pression démographique. Et dans cette ville de Nairobi, il y a des quartiers privilégiés, parmi eux, le quartier qui s'appelle aujourd'hui encore Karen. Ça, c'est quand même quelque chose d'original.
Quand Karen est partie en 1931, ruinée, parce qu'en plus, elle a subi la crise de 1929, qui n'a pas arrangé ses affaires, qui de toute façon étaient en perdition, son domaine a été loti. Et elle avait quand même 2468 hectares, hein. Donc c'était pas mal, c'est moins que bien des blancs, mais enfin c'était quand même une propriété importante. Et donc vous avez sur la gauche l'affiche qui a été faite pour susciter des achats de lots qui ont été faits. Alors elle a négocié évidemment pour que ces paysans qui étaient sur sa propriété puissent avoir des lopins plus à l'extérieur, mais il n'en reste pas moins donc que c'est devenu un quartier extrêmement prisé, parce que comme la ville entre-temps s'était agrandie, elle s'est retrouvée de plus en plus proche de la ville elle-même et c'est devenu une banlieue ultra chic. Et à l'heure actuelle, quand on veut faire un beau mariage, il n'y a pas d'autre endroit que d'aller à Karen. Et vous avez un de mes anciens doctorants ici qui m'a envoyé le CD. J'étais invitée au mariage, mais je n'ai pas pu y aller. Et donc, il m'a envoyé le CD. Et évidemment, sur le CD, on voit toute la fête qui a lieu à Karen et qui correspond vraiment au standing habituel. Il travaille à Nairobi, il se marie avec une Kenyane. Et donc, il n'y avait pas d'autre solution que de se marier à Karen.
Karen Country Club.
Oui. Alors, la maison de Karen est devenue un musée. Elle a été donnée par le gouvernement danois. La maison elle-même, pas les terres, évidemment, peu de terres autour, mais enfin quelques mètres carrés quand même. Cette maison, donc, qui est passée de propriétaire en propriétaire après Karen, a été donnée à l'indépendance du Kenya en 1963 au gouvernement kényan. Et le gouvernement kényan, donc, en a fait un musée dans les années 1990, qui lui permet d'ailleurs d'attirer beaucoup de visiteurs.
Ma machine devient folle.
Donc.
Vous
avez
arraché.
Non,
je ne sais pas si vous avez arraché. Le musée, si vous allez sur Internet, vous voyez qu'il y a beaucoup de séjours à Nairobi qui sont utilisés autour de l'image de ce musée. Ça fait partie des points d'appel pour le commerce qui s'est développé autour de ça. Alors, c'est un musée national. Il y a évidemment tout ce qui reste du film. Et c'est justement à la suite, d'ailleurs, du film qu'on a eu l'idée d'en faire un musée. Et vous avez également une série de manifestations qui peuvent s'y dérouler. Et vous avez aussi un magasin, et c'est là que j'ai acheté en particulier le livre dont je vous ai parlé au début. L'autre point important, évidemment, du tourisme qui a été créé autour de Karen, ça a été la tombe de son compagnon, l'Anglais qui s'est tué dans un accident d'avion puisqu'il était aviateur. Et là encore, il y a toute une commercialisation des lieux que vous avez vus dans le film qui sont évidemment un peu à la campagne. Il y a toute une... un cadre qui est favorable pour en faire un lieu privilégié de vacances, ou tout au moins de tourisme. Donc Karen, en 1931, rentre avec l'idée qu'elle pourra revenir, mais en fait, elle n'est jamais revenue au Kenya, même si elle en a gardé par la suite beaucoup de contacts. Elle s'est installée dans la maison familiale, dans ce Danemark où elle avait passé toute sa jeunesse.
Alors, c'est un retour dans une zone qui n'est pas encore complètement urbanisée dans les années 1930. C'est encore la campagne de cette partie du Danemark avec ses maisons au toit de chaume, aux murs blanchis à la chaux, une très belle campagne dont voici quelques images. Encore aujourd'hui, donc, ce sont des campagnes de la périphérie de Copenhague. La ville, le musée que vous venez de voir est à une vingtaine de kilomètres de Copenhague.
Non,
mais ça, c'est pas le musée. Avec ces églises typiques de cette région, ces églises avec des clochers très particuliers, ces pignons aussi à redans, comme vous voyez à droite. Ces cimetières très paisibles, beaucoup de fleurs. Et aujourd'hui, de nouveaux profils. Le Danemark, vous le savez, est pionnier dans l'énergie éolienne, que ce soit en mer ou sur terre. Il y en a un peu partout. Alors voici, nous allons voir un petit peu Copenhague aujourd'hui. Copenhague aujourd'hui, qui est une ville portuaire. D'ailleurs, Copenhagen, c'est la version danoise du mot port, P-O-R-T. Et vous voyez donc une ville dont le centre qui se trouve... Je vais le trouver là, voilà. Voilà, le centre-ville, il est là, le port, et là, c'est le détroit qui nous sépare de la Suède. Voici, toujours par les images Google, le site de Rungholst, qui est un site préservé de l'urbanisation pour des raisons que vient de vous expliquer Annie.
Non.
Ça s'emballe. Hein. Les boutons sont un peu proches.
Aïe. Je vais te le faire, Dan. Ah là 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 là.
Voilà. Là.
Alors.
Là, c'est là. Vous voyez que un port qui est un port de plaisance dans cette partie-là. Et puis le domaine de Karen à Rungholstone est épargné par l'urbanisation parce que c'est un espace qui est préservé, qui est sanctuarisé en quelque sorte.
Voilà, c'est ça, c'est le domaine. Là.
C'est le domaine.
Et les lotissements autour qui grignotent.
Ah oui, ça grignote de partout. Et la voie ferrée, là.
La voie ferrée.
Mm-hmm, c'est pas moi. Il en fallait un. Voilà, je peux y aller. Je le fais. Voilà donc une vue plus générale de cette agglomération de Copenhague. Donc, les points de repère, c'est Copenhague, bien sûr, au sud, Helsingør, que vous allez voir après, au nord, ne pas confondre avec Helsingborg, du côté suédois. Il y a dans ce détroit, de chaque côté, il y a un beau château, côté suédois comme côté danois. Et puis, Le domaine de Karen se trouve à mi-parcours à peu près entre Copenhague et Helsinger. Copenhague en hiver, au mois de janvier, mais sans neige malheureusement quand j'y suis allé. Donc ça vous donne quelques images de ce centre-ville, en grande partie piétonnier, très vivant, avec beaucoup de rues piétonnes, beaucoup de belles maisons bien colorées. Et ce quartier central, c'est une des vues les plus connues du centre de Copenhague, qu'on appelle, c'est le Port Neuf, la traduction française du nom du quartier en danois, port ici, qui est à cet endroit-là, et surtout un port de plaisance, avec des établissements et des monuments importants, comme le musée national, ici, dans le centre de Copenhague.
Où il y a des tableaux et des restes d'archives de Karen.
Et partout, des vélos. Des vélos, vraiment, qui s'infiltrent dans tous les interstices. Des marchés, beaucoup de marchés de poissons en particulier. Quelques beaux monuments, celui-ci antérieur à l'époque de Karen, dans le jardin botanique, une belle serre. Le célèbre parc de Tivoli, qui existait déjà à l'époque de Karen, puisque c'est l'un des plus anciens parcs d'attractions du monde, comme vous le voyez. Et puis des quartiers industriels, industries liées au port, avec des quartiers, un habitat assez hétéroclite. Et ici, un quartier très particulier, connu, un quartier alternatif, qui a été un quartier expérimental, qui rassemble des populations, on va dire, marginales par rapport au mode de vie dominant, et qui se sont créées un quartier alternatif où beaucoup d'activités de toutes sortes se sont développées, légales ou illégales, mais le problème n'était pas entre la légalité et l'illégalité, c'était la différence. Alors c'est un quartier qu'on peut visiter, dans lequel on peut se promener, tout ça, c'est... Et quelques infrastructures culturelles majeures, les plus impressionnantes, c'est cette bibliothèque qui est constituée de ce qu'on appelle le diamant noir, ce bâtiment penché en bordure de mer. Là, ça, c'est les vieux bâtiments de la Bibliothèque nationale, avec bien sûr des vélos partout, de belles salles de consultation et des bâtiments plus modernes qui donnent directement sur le port.
Alors là, toujours pareil, d'un point de vue commercial, Copenhague a beaucoup utilisé l'image de Karen Blixen. Je vous rappelle qu'elle a été proche de recevoir le prix Nobel de littérature. C'est Hemingway qui l'a eu et qui a dit que, en fait, il aurait dit que c'est elle qui aurait dû l'avoir. Mais toujours est-il que, pour le Danemark, l'image de Karen Blixen reste une image qui est très utilisée. Et son musée, donc sa propriété familiale, a été transformée en musée. C'est une fondation et c'est justement son petit frère Thomas, dont je vous ai parlé au Kenya, qui a tout fait pour qu'on garde le maximum de choses de Karen. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre de photos à l'intérieur. Et donc, nous avons respecté la consigne. Et donc, vous n'aurez pas de photos. Il faut simplement que vous sachiez que les originaux donc, de tout ce qui a servi au film sont ici dans cette maison parce que quand elle a déménagé en 1931, elle a emporté avec elle, non seulement, bon, elle a vendu certaines choses. Dans le film, je crois qu'on exagère un peu trop d'ailleurs ce qu'elle a vendu. En réalité, elle a déménagé l'essentiel de ce à quoi elle tenait, c'est-à-dire ses meubles, sa porcelaine, la porcelaine royale du Danemark, bien évidemment. Tout cela était très typé. Et donc, elle l'a repris ici dans sa maison familiale. Et vous retrouvez, alors là, c'est une carte postale qui est en vente au magasin, parce que bien évidemment, je vous dis que c'est très commercial. Et donc, il y a un magasin où l'on peut trouver toutes sortes de choses. Et cette carte postale, donc, la montre avec le bouquet. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous ai montré cette science des bouquets que tous les expatriés ont cultivé, mais elle tout particulièrement. Et vous voyez qu'il y a un coffre en bas, pardon, le coffre sur lequel, c'est un coffre typique des Somalis, qui a été évidemment le coffre rapporté du Kenya. Alors, la photo que vous aviez évidemment tout à fait au début, c'est la photo donc que l'on trouve et qui est l'invitation à visiter ce domaine. Alors, le domaine lui-même, vous voyez la version moderne de ce que vous avez vu précédemment qui datait de l'époque de l'enfance de Karen. C'est très soigneusement entretenu, bien évidemment. Le terrain, puisqu'elle aimait beaucoup à la fois les fleurs, mais tout ce qui était la nature, tout cela est très soigneusement entretenu, mais avec un aspect de jardin anglais, comme aiment les avoir les Danois. Et il y a toute une architecture qui a servi à entreposer à la fois, comme je vous l'ai dit, tout son déménagement de Nairobi, mais également tout ce qu'elle a pu faire comme photographie, comme écrit. Alors il y a évidemment ses manuscrits, tout ce qu'elle a écrit et qui est resté ici, et également toute une série de souvenirs qui la situent dans son milieu. Et bien évidemment, d'un point de vue commercial, pour pouvoir compléter le tout dans ce musée, vous avez la possibilité de manger dehors, mais également de prendre le thé, de vous restaurer. Et il y a un salon de thé qui est très fréquenté par les visiteurs. Sa tombe est pas loin de la maison que vous avez vue. Elle est au milieu du bois, le terrain que l'on a aperçu tout à l'heure. Une tombe très simple, comme elle l'avait souhaité. Elle est morte donc sans descendance, mais ce sont ses neveux et petits-neveux, les enfants de Thomas, justement, qui veillent jalousement à préserver tout ce qui concerne la mémoire de Karen Blixen et qui entretiennent donc cette tombe. Pour terminer, la vue sur le port, puisque Karen disait qu'elle avait toujours besoin de voir un paysage et en particulier de voir la mer, de voyager. Donc vous avez le salon de thé ici qui vous mène vers d'autres horizons et en particulier des horizons mer.
Oui, je voudrais ajouter avant la conclusion finale que l'on a été frappé par les ressemblances finalement en termes d'atmosphère, surtout entre la maison de Nairobi, qui je vous le rappelle est à 1800 mètres d'altitude, donc ce n'est pas le climat tropical chaud et humide, c'est un climat frais, humide, tempéré, avec des beaux arbres, des belles fleurs, et la maison de Karen Blixen. C'est très curieux, dans ces allers-retours qu'on a fait entre les deux maisons, de voir que finalement, entre deux pays aussi lointains, aussi éloignés l'un de l'autre, et aussi différents, aussi par d'autres aspects, il y a quand même comme l'empreinte des goûts d'une personne qui a peut-être marqué ces territoires, marqué en tout cas les logements où elle a vécu. Voilà.
Donc nous vous remercions. Ça a disparu. Merci à la fois en danois, en swahili et
en anglais.
En français.
Et en français.
Voilà. Donc je ne sais pas comment on allume.
À deux voix et de l'enthousiasme que vous avez mis à évoquer la mémoire de Karen Blixen, ça n'enlève rien au plaisir de revoir le film à Outest Africa.
Par contre,
ça pourrait nous inciter à lire le livre, car je ne sais pas si nous sommes très nombreux à l'avoir lu, moi je confesse que non. Et donc, je crois que oui, je lirai maintenant ce livre dont le titre est, rappelez-moi,
La ferme africaine.
La ferme africaine, voilà.
Alors la formule que vous avez dans le film de traduction, mais ça c'est une traduction, donc il faut vraiment qu'il colle aux paroles des gens, donc c'est « J'avais une ferme en Afrique », et dans la traduction de 2005, c'est « J'ai possédé une ferme en Afrique ». Voilà.
Et alors, vous avez bien entendu, il faut, si vous vous la procurez, acheter
la version de 2005
et pas l'autre. Voilà. Nous en souviendrons. Merci beaucoup. Alors, je prendrai deux questions. Il y en a.
Ah, Jambobwana.
Jambobwana. Moi, je viens de faire un grand voyage parce que j'ai vécu 7 ans à Nairobi.
Ah, très bien.
Dans les années 91-98. Et je suis revenue dans ce pays que j'ai adoré. Je travaille aux Nations Unies pour le programme de l'environnement, en éducation pour le CNUM. Et j'ai eu l'occasion, évidemment, d'aller de nombreuses fois chez Karen Kixen, et donc deux réceptions somptueuses dans cette maison, dont j'ai un souvenir, j'ai pas porté de photo évidemment, mais m'a fait voyager, et j'en suis très émue. Merci.
Ah, mais c'est un lieu très émouvant. À la fois très triste par certains côtés, comme dans le film d'ailleurs, quand on voit les plantations de café qui brûlent, tout ça, c'est... Et puis c'est la perspective de ce départ sans retour finalement, c'est très triste, très fort, mais il y a aussi un aspect romance, comme on dit en anglais.
Et c'est ce qu'on ressent d'ailleurs quand, quand on est là-bas, dans...
Oui.
Au Kenya, oui. Enfin, Nairobi, je suis revenu à Nairobi parce que moi je suis rentré en 98, donc il y a des photos que je ne connaissais pas, enfin, de Nairobi, et justement j'habitais à Mutaïga, donc je connais bien.
Ah, vous connaissez le Mutaïga Club?
Ah oui, où les femmes n'étaient pas, moi quand je suis arrivée.
Ah oui, c'est, oui. C'est très limité aux femmes, pour les femmes.
Et les noirs. Ils servaient, mais ils n'avaient pas le droit d'amener leur famille ou quoi que ce soit. Et moi j'ai vécu même en tant que femme, c'était en 91.
Mais j'en profite pour dire quelque chose qu'on a peut-être oublié de dire, pour parler du Kenya en général. C'est que finalement, il y a tout un passé colonial qui est encore très présent. Les héritages de la colonisation sont très visibles dans la société, dans les paysages. Mais que malgré ça, et malgré la dureté de la colonisation britannique et allemande aussi, il y a eu des épisodes de violence extrême, il y a moins que dans l'Afrique francophone ce ressentiment anti-européen que l'on perçoit si fort maintenant à Abidjan, à Dakar ou ailleurs. Il y en a au Kenya, mais c'est...
Beaucoup moins.
Beaucoup moins, c'est ce qu'on a trouvé.
J'ai passé 7 ans, peut-être moins. Bon, je connais très bien l'Afrique de l'Ouest, parce que j'ai travaillé aussi. Mais j'allais de temps en temps faire des conférences. Mais c'était moins chaleureux. L'Afrique de l'Ouest est quand même beaucoup plus chaleureuse.
Ah oui, ce sont pas, c'est pas, ça c'est sûr. C'est moins chaleureux, ça je suis d'accord. Ah oui.
Les Anglais qui sont derrière le colonialisme. Oui.
Mais c'est aussi culturel, ça. Ce
sont des montagnards.
Oui, ces gens-là.
Ils sont quand même plus chaleureux que les Rwandais. Hein. Cela étant, nous, on a vécu 6 ans au Rwanda.
Ah oui,
quand
Rwanda,
on arrivait à Nairobi, on trouvait que justement les gens étaient quand même beaucoup plus ouverts et chaleureux.
Je ne me souviens pas le Rwanda, dans quelles circonstances je l'ai vu, c'est après le génocide.
Oui, tandis que nous, c'était 77-83, donc c'était, mais ce sont des montagnards, comme les Kenyans.
En tout cas, merci beaucoup.
Et merci à vous.
Merci à vous, oui, pour ce témoignage.
Merci, oui, merci de ce témoignage. Et y a-t-il une autre question?
Oui, le monsieur.
Pardon?
Là.
Qui a vécu sa vie européenne après 1931?
Je n'ai pas compris la question.
Oui, je vais dire.
Quelle fut sa vie européenne, disons, après 1931 ?
Alors, après 1931, elle s'est mise à écrire.
Oui, elle a écrit.
Justement, c'est son frère, Thomas, qui lui a dit que, puisqu'elle rentrait et qu'elle n'avait plus d'activité, il fallait qu'elle écrive ce qu'elle avait vécu. Et donc, ses livres, je vous rappelle au départ, je vous ai dit, La ferme africaine, son premier livre, c'est 1938. Donc, elle a écrit pendant cette période-là, elle a écrit d'autres livres, là, La ferme africaine, c'est 38. Elle avait commencé à écrire déjà en 1907. Elle avait fait quelques petites histoires qui n'avaient pas eu de succès. C'est pour la raison pour laquelle, outre le fait qu'elle était occupée avec sa ferme, elle n'avait pas continué. Mais en rentrant, donc, Thomas lui a dit qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose et donc que, comme elle avait des talents d'écriture, puisqu'elle avait beaucoup écrit à sa famille, à ses frères, etc., donc il fallait qu'elle écrive. Et donc, elle a écrit. Et elle a aussi eu autour d'elle toute une série, presque une cour d'écrivains locaux. Elle tenait une sorte de salon. Alors, le mot est évidemment pas celui du XVIIIe siècle, Mais en tous les cas, elle faisait des réunions avec des gens qui étaient dans les milieux littéraires danois ou étrangers. Et alors, après la Deuxième Guerre mondiale, elle a fait énormément de voyages à l'étranger. Justement, elle était devenue, puisqu'on en avait parlé pour le prix Nobel de littérature, elle était reçue aux États-Unis, elle était reçue dans tous les pays, et elle témoignait. Alors, vous avez peut-être remarqué sur la photo qu'elle était devenue squelettique parce qu'elle avait ses problèmes de santé. Alors, c'est très controversé. On dit que non, ce n'était pas la syphilis, que c'était autre chose que lui avait refilé son mari, mais que c'était peut-être d'autres maladies qu'elle avait qui ont fait qu'elle était devenue quasiment anorexique alors qu'elle faisait une cuisine absolument extraordinaire, magnifique. Mais donc, elle a beaucoup voyagé et elle a été une sorte d'ambassadrice du Danemark à l'étranger. Voilà, c'était une femme de lettres.
Et les liens culturels entre Kenya et Danemark restent forts aujourd'hui.
Oui. Ah
oui. Non seulement autour de Karen Blixen, mais d'une façon plus générale. Comme avec d'autres pays scandinaves, d'ailleurs. Mais enfin...
Les étudiants qui vont faire des
oui,
thèses,
beaucoup.
Qui vont travailler au Danemark. Et puis, avec cette option aussi du Danemark, qui est en train de s'estomper un peu, mais qui est très, très tournée vers le tiers-monde.
Oui, ça a un peu changé, ça.
Ça a un peu changé.
Ça change.
C'est le moins qu'on puisse dire. Mmh. Voilà.
Eh bien, mes amis, je vous remercie. Je vous rappelle que nous vous retrouvons dans 15 jours. Et je vous souhaite une bonne journée.